Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'équilibre des objets. Pourquoi un truc tient debout ou pourquoi ça bascule?
Exactement. On va décortiquer ça en s'appuyant sur les concepts d'un document source, Equilibrio et Momenti Nei Solidi.
L'idée, c'est vraiment de comprendre la physique qui se cache derrière la stabilité des objets solides autour de nous. On va commencer simple, hein. La différence entre un point matériel, le punto materiale, et un objet réel, le corpo rigido.
Oui.
Puis on va attaquer le momento d'una forza. C'est quoi ce truc qui fait tourner les choses?
Le moment d'une force, oui, c'est crucial.
Et pour finir, les différents types d'équilibre, stable, instable et indifférenté, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça. Prêt à démarrer?
Allons-y.
Alors, tout part de l'analyse des forces. Pour un punto matériel, imaginez un objet tellement petit qu'il n'a pas de dimension.
Un point, quoi.
Voilà, un point. L'équilibre, c'est simple. Il faut que la somme de toutes les forces qui agissent dessus soit zéro.
Nul.
Comme une bille sur une table bien plate.
Son poids est compensé par la table.
C'est ça. Le poids, peso, vers le bas, et la réaction de la table, la reazione vincolare, vers le haut. Ça s'annule.
Ok. Et si on incline la table, il piano inclinato?
Ah, là ça change. Le poids, il se décompose. Une partie perpendiculaire au plan, compensée par la réaction, et une partie parallèle au plan.
Qui peut faire glisser la bille.
Exactement, sauf si le frottement est suffisant pour la retenir.
Bon, ça c'est pour le point. Mais les objets réels, ils ont une taille, une forme. Le fameux corpo rigido.
Le corps rigide.
Ça change quoi, fondamentalement?
Ben, ça change presque tout. Pour un corpo rigide, que la somme des forces soit nulle, ça ne suffit plus.
Ah bon? Pourquoi?
Parce qu'un objet peut être soumis à des forces qui s'annulent globalement, mais qui le font tourner sur lui-même. Pensez à une hélice ou...
Ah oui, je vois. Donc il faut une autre condition.
Oui, il faut une deuxième condition. L'équilibre des rotations. Autour d'un axe, lacet d'irrotation, il faut que la tendance à tourner dans un sens soit compensée par la tendance à tourner dans l'autre.
Et c'est là qu'intervient ce fameux moment d'une force.
Précisément. Le moment d'une force.
Le moment. C'est donc la capacité d'une force à provoquer une rotation. J'imagine une clé pour serrer un écrou. Si je pousse loin sur le manche, ça tourne plus facilement.
C'est exactement ça. Le moment mesure cet effet. Et il dépend de deux choses. La force elle-même, bien sûr, et la distance. Mais attention, pas n'importe quelle distance.
La distance entre quoi et quoi?
Entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. Et c'est la distance perpendiculaire. C'est ça le bras de levier, le braccio d'una forza.
Ah, d'accord. Plus le braccio, le bras, est long, plus l'effet de rotation est important pour la même force. C'est pour ça qu'on utilise des longues clés.
Voilà, c'est le principe. On peut aussi avoir une rotation pure avec une coppia di forze.
Une coppia, un couple de forces, c'est-à-dire...
Deux forces égales en intensité, deux directions opposées, mais pas sur la même ligne d'action. Pensez à tourner un volant de voiture avec les deux mains.
Ah oui, les forces s'annulent globalement, on ne déplace pas le volant, mais il tourne.
Exactement. C'est un couple qui crée un moment net.
Le bras de levier, ça fait penser au lever, les leviers.
C'est une application directe, j'imagine, hein?
Tout à fait. Les leviers, c'est l'archétype de l'utilisation des moments pour nous faciliter la vie en quelque sorte. On y trouve un bras moteur, le braccio motore.
Là où on applique notre force.
Oui, et un bras résistant, le braccio resistente, où se trouve la charge, la résistance à vaincre.
Et il y a différents types de leviers, non?
Certains sont vantageuses, avantageux.
Oui, un levier est avantageux si le bras moteur est plus long que le bras résistant. Ça permet de multiplier la force. Pensez à un pied de biche. On applique une petite force sur un long bras.
Pour soulever une grosse charge sur un petit bras.
C'est ça. Mais attention.
Il y a une contrepartie, j'imagine.
Toujours. Si on gagne en force, on perd souvent en déplacement. Il faut bouger notre main sur une grande distance pour que la charge ne bouge que très peu.
Et inversement, les leviers favorisant. Désavantageux.
Eux, c'est le contraire. Le bras moteur est plus court, on doit fournir plus de force que la résistance.
Mais alors, quel intérêt?
On gagne en vitesse ou en amplitude de mouvement à l'extrémité. Pensez à une pince à épiler ou même à notre avant-bras qui soulève un objet. Le muscle applique une grande force près du coude, mais la main bouge vite et loin.
D'accord, je vois. Donc, on a les forces, les moments, les leviers. Mais revenons à notre objet posé sur une table, une bouteille par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'elle tient? Ou qu'elle tombe si on la pousse un peu.
Là, on touche au cœur de la stabilité. Et le concept clé, c'est le centro di gravità, le centre de gravité, parfois appelé barycentre.
C'est le point où on peut considérer que tout le poids de l'objet est appliqué.
C'est une bonne façon de le voir, oui. Un point théorique. Et c'est sa position par rapport à la base d'appui, ou au point de suspension si l'objet est pendu, qui va déterminer s'il est stable ou non.
Donc, si le centre de gravité est bas, eh bien, au-dessus de la base d'appui, c'est stable.
Comme une voiture de course, très basse sur ses roues.
Tout à fait. Plus le centre de gravité est bas, et plus la base d'appui, la surface définie par les points de contact avec le sol, est large. Plus l'objet est stable.
Et c'est ça qui nous amène aux trois types d'équilibre.
Stable,
instable
et indifférent.
Exactement. Ça s'applique aussi bien à un corpo appeso, un corps suspendu, qu'à un corpo appoggiato, un corps appuyé.
Alors, stabilé, l'équilibre stable,
c'est quand, après une petite perturbation, l'objet a tendance à revenir tout seul à sa position initiale. Imaginez une bille au fond d'un bol, vous la poussez un peu, elle oscille et revient en fond.
Logique. Et l'instable, instabilé,
là, c'est le contraire. La moindre perturbation et l'objet s'éloigne encore plus de sa position. Pensez à la même bille, mais en équilibre, très précaire, au sommet d'une sphère. Ou un crayon sur sa pointe.
Ça ne tient pas longtemps.
Non. Et enfin, l'équilibre indifférente. Indifférent.
Là, si on le bouge un peu, il reste dans sa nouvelle position.
Il n'a ni tendance à revenir, ni à s'éloigner davantage. Une bille sur une table parfaitement horizontale, par exemple.
C'est clair. Donc, si on essaye de résumer tout ça, pour qu'un objet solide, un corpo rigido, soit en équilibre, il faut deux choses.
Zéro force nette.
Pour éviter qu'il ne se déplace. Pas de translation. Et zéro moment net.
Pour éviter qu'il ne tourne. Pas de rotation.
Et des concepts comme le momento de una forza, les braccio de una forza et la position du baricentro sont essentiels pour comprendre comment ça marche.
C'est fou comme c'est la physique de tous les jours, en fait.
Absolument. C'est partout autour de nous. Et si on prend un peu de recul, ces principes d'équilibre statique, on les a vus pour des objets simples, mais leur portée immense.
Ah oui ! Comment ça ?
Pensez à l'ingénierie civile. La conception d'un pont, d'un gratte-ciel, c'est entièrement basé sur la gestion de ses forces et de ses moments pour assurer la stabilité face au vent, aux charges, aux séismes même.
C'est vrai ?
Mais on pourrait même aller plus loin, se demander si ces lois physiques de l'équilibre, de la stabilité, n'ont pas des échos, peut-être des analogies, dans des systèmes beaucoup plus complexes.
Comme quoi, par exemple ? Je ne sais pas. L'équilibre d'un écosystème, la posture d'un être vivant, voire l'équilibre d'une structure sociale, jusqu'où cette idée de centre, de gravité, de base d'appui, de retour à l'équilibre après une perturbation, peut-elle nous aider à penser d'autres types de systèmes ? C'est une question ouverte, hein ? De quoi réfléchir.